Bonjour Milo Manara.
Bonjour.
Vous êtes cet auteur italien de bande dessinée associé au mot érotique, considéré par beaucoup comme étant un grand maître italien du 9e art. Vous avez découvert la bande dessinée très tôt, hein, grâce au sculpteur espagnol Berrocal à travers Barbarella de Jean-Claude Forest notamment.
Oui, c'est ça.
Et Jodel de Guy Pellart à 22 ans. C'est comme cela que sont nées vos premières histoires et planches érotiques. Et c'est aussi grâce à elles que vous avez pu financer à l'époque vos études d'architecture. Au commencement, il y a eu votre adaptation du Decameron de Boccace en 1974, les aventures de Giuseppe Bergman dans À suivre en 78 et en 83 la consécration avec le déclic hein, qui vous a propulsé presque instantanément comme l'un des maîtres de la bande dessinée justement, toujours avec ce mot érotique associé. Aujourd'hui, vous publiez le deuxième et dernier tome Le nom de la rose d'Umberto Eco chez Glénat, le fameux chef-d'œuvre vendu à plusieurs millions d'exemplaires et traduit en 43 langues. C'était quoi votre vision de l'œuvre, Milo, avant de démarrer?
J'espère que c'est la même vision d'Umberto Eco, c'est-à-dire que de Moyen-Âge, que c'est tout à fait différent des Moyen-Âge qu'on imagine. Parce que l'image qu'on a du Moyen-Âge, c'est plutôt héritier des écrivains de 800, comme Bram Stoker, Alan Poe. C'est-à-dire, on a une vision du Moyen-Âge gothique. Alors que Umberto Eco, il a proposé, il est un grand médiéviste, et donc il a proposé une vision tout à fait différente, c'est-à-dire d'une période dévorée par la fantaisie. De grande ignorance, on ne savait presque rien
du monde.
Mais on imaginait tout. Donc on imaginait des mondes fantastiques. S'il y avait un voyageur qui voyageait en Afrique, il revenait avec des dessins, avec des hommes avec trois bras, un pied seulement énorme. C'est-à-dire que c'était la fantaisie à la place de la science, de la connaissance. Et je crois qu'il n'y avait pas d'autres périodes dans l'histoire de l'humanité où la fantaisie a les mêmes pouvoirs. Voilà.
L'histoire se déroule effectivement en l'an 1327 dans cette fameuse abbaye bénédictine du nord de l'Italie. Plusieurs moines sont retrouvés morts, hein, ce qui évidemment alerte les hautes autorités de l'Église et donc déclenche une enquête interne. Un homme, le frère Guillaume et son assistant de Baskerville, donc et son assistant Azzo de Melk, tentent de lever le voile hein, sur ce mystère qui évidemment est synonyme de mauvaise superstition. Le décor, il est évidemment, Milo, inspirant, avec notamment cette bibliothèque labyrinthique et les secrets qui s'y cachent. Ce qui prédomine, c'est cette notion de désir, de l'interdit, une aire de jeu pour vous.
Ah oui, les modèles pour l'abbaye, c'est plutôt l'abbaye française, le Cluny, etc. Parce que les bénédictins, ils sont spécialisés sur la bibliothèque, sur les savoirs. Et donc, la bibliothèque, c'était l'univers. C'est un peu comme la bibliothèque de Babel de Borges, qu'il dit exprès la bibliothèque que quelqu'un appelle univers. Donc, c'est vraiment l'univers. Et c'est la map de l'univers. Il commence dans les paradis terrestres et il termine dans les finis africains. Hic sunt leones. Il y a pas que des lions ici, dans la fin de l'Afrique. Donc, c'est un univers entier et il essaie de pénétrer les mystères de l'univers, enfin.
Il y a un personnage très important, c'est cette bibliothèque. Et du coup, elle a une âme. L'histoire que vous racontez et la manière avec laquelle, justement, on découvre à travers ses dessins l'histoire d'Umberto Eco revisité, lui laisse une place prépondérante. Cette bibliothèque, elle est encore aujourd'hui, entre guillemets, même si on la voit pas tous les jours, même dans la rue, elle existe parce qu'elle représente le savoir.
Oui, c'est vrai, je confirme.
Ça veut dire que ce personnage, il est central aussi. Il vient affronter justement les différents personnages, les différentes forces de cette histoire.
Oui, et la bibliothèque, c'est le centre autour de lequel bouge toute l'histoire. En effet, on parle d'un livre prohibé, mais c'est un livre qu'il a créé Umberto Eco, c'est-à-dire c'est la comédie d'Aristotèle. Alors, Aristotèle a parlé de tout, même de la comédie d'une façon tragique, mais la comédie d'une façon rigolo qui contient l'importance du rire, il n'hésite pas. Donc c'est Umberto Eco qui l'a inventé et c'était interdit de rigoler dans l'abbaye parce que L'homme qui rit, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de l'Église, il n'a pas peur du pouvoir. C'est contraire plutôt à la théorie, à le pouvoir de l'Église qui se base sur la peur de la mort, la peur de l'enfer. Et donc, l'homme qui rit, il n'a pas peur de ça.
On est en 1327 et pourtant cette histoire elle met en exergue des situations qui existent encore aujourd'hui. Beaucoup de régimes totalitaires, de dictateurs tentent de limiter l'accès, même de couper l'accès à la culture, à cette notion très importante de savoir.
Oui.
Aujourd'hui, on se rend compte à quel point Umberto Eco était vraiment visionnaire. Il a mis le doigt sur énormément de difficultés qu'on rencontre encore aujourd'hui.
Oui, et je crois que la partie plus actuelle de l'histoire, c'est les débats sur la richesse et la pauvreté. Alors qu'on vit aujourd'hui dans un moment historique où la différence, l'écart entre la pauvreté et la richesse, c'est devenu dramatique. Il n'y a même pas de justification économique. C'est tellement la richesse s'est tellement concentrée dans peu de mains qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire, sinon dans le Moyen-Âge.
On comprend que, par moment, votre plume sert aussi à ça, à mettre le doigt là où ça fait mal. À un moment donné, un ecclésiastique, qui fait partie de la légation pontificale, qui a été effectivement mandaté par l'Église pour mener à bien cette enquête, raconte ce qui se passe dans certaines églises et dans certains territoires. Et notamment, elle explique que, par moment, certains prêtres s'autorisent le droit, pour absoudre certains péchés, de faire payer ceux qui se confessent et parce qu'ils ont commis des actes soit parce qu'ils ont touché aux fruits défendus, soit parce que voilà. Et que ces tarifications varient en fonction du mal qu'ils peuvent faire. Et à un moment donné, c'est très fort parce qu'il dit si un prêtre touche à ce fruit défendu, si c'est une femme, c'est très cher. Si c'est un enfant ou un animal, ce n'est pas cher du tout. Là, on met le doigt aussi sur quelque chose qui fait mal.
Ah oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes et actuelles dans le livre. Pour exemple, la considération de la femme. Alors que quand il y a l'apparition de la fille dans l'histoire...
Dès le début, hein, elle apparaît à Califourchon sur, effectivement, un homme d'église qui touche aux fruits défendus.
Oui, il y a une concession de la fille de la part de l'église. C'est la cause de tous les mâles du monde, la perdition, etc. Alors que les gens, Adso, notre protagoniste, il voit la Vierge. C'est une épiphanie, l'apparition. Il voit une femme angélisée comme il était à l'époque. Dante, Petrarque, ils ont toujours parlé de Béatrice, Laura, etc. D'une femme qui va assolvere, qui transforme l'homme dans la dimension terrestre en dimension spirituelle. Donc, la femme vue par la poésie de 1300, c'est la femme angélisée qui meilleure l'humanité en général. C'est comme ça qu'il la voit Alceau, le jeune Alceau.
Umberto Eco, justement, avec l'arrivée imminente de l'Inquisition et les ténèbres de l'âme humaine qu'il met en avant, a un côté très sombre, finalement, dans cette histoire. Et à travers votre érotisme, enfin en tout cas ce côté très charnel, j'ai l'impression que vous venez contrecarrer tout ça. C'est du sur-mesure pour vous, Milo Manara.
Il faut dire qu'Umberto Eco emploie 15 pages pour décrire l'épisode de la fille. Et donc, il a aussi donné beaucoup d'importance. Dans les premiers volumes, il y a l'apparition de la Vierge, de l'ange, etc. Dans les derniers volumes, c'est pour ça qu'il commence avec la fille, il y a le sexe. Donc, c'est pas la fille angélisée, mais c'est la fille charnelle. Et donc, ça va changer toute la vision, même de Adso, mais même de nous, des lecteurs. La dernière partie, c'est plutôt dramatique de la première, parce qu'il y a le débat entre la délégation avignonnaise du pape Jean XXII, qui s'est accusé par des simoniaques de faire commerce, des indulgences, etc. Et donc, il y a aussi la quête, la recherche des livres interdits. Il y a aussi beaucoup de morts et on découvre l'assassin à la fin. Donc c'est plus dramatique la deuxième partie. Et il commence justement avec les changements de la fille. De la fille angélisée, il devient un fille charnel. Donc c'est plus dramatique ça.
Et elle passe pour une sorcière, mais je vous laisse découvrir ce passage-là. Comment ils vous ont abordé la famille d'Umberto Eco, finalement, les héritiers ? Parce que, inévitablement, Milo Manara, quand on pense à vous, on sait très bien que vous n'auriez jamais pu faire ce vœu de chasteté.
Oui, mais j'ai eu la chance qu'Umberto Eco, vivant, il appréciait mon travail. Je l'ai rencontré parfois. Et donc, c'était plutôt son fils, Stefano Eco, qui m'a demandé de transporter les livres dans la bande dessinée. Donc, ils sont contents. Soit Carlotta Eco, soit Stefano Eco, ils m'ont encouragé à faire ça.
Ce moine qui se confesse au départ, parce que ça démarre, le tome 2 démarre sur un moine qui se confesse et qui, évidemment, effectivement, raconte les écarts qu'il a pu faire, dit « Ô Seigneur, quand l'âme se voit ravie, alors la seule vertu est d'aimer. » C'est ça le nerf de la guerre, c'est le fait d'aimer quelqu'un d'autre, d'être aimé, de se sentir aimé, que ce soit de Dieu ou d'un être.
Moi, je crois, oui. Je crois que même les auteurs de bandes dessinées, ils font ça pour espérer que les lecteurs l'aiment. Je profite de l'occasion pour remercier vraiment les lecteurs qui m'ont permis de continuer à exercer la profession jusqu'à 80 ans. J'ai fait 80 ans l'année passée.
Vous vous rappelez justement du moment où ça bascule, Milo Manara, avec le déclic, le moment où justement les gens vous proclame et vous désigne comme étant un grand maître de la bande dessinée érotique.
Bon, je ne sais pas si je suis un maître. Bien sûr que je me rappelle bien parce que c'était une petite histoire en italien. Le titre, c'est un jeu. Un gioco. Donc, pour moi, c'était vraiment certaines critiques, les façons où il était vu à l'époque, l'érotisme. Et donc, j'ai raconté une histoire d'une femme qui n'a pas aimé l'érotisme et se transforme avec petite boîte. Mais c'était vraiment une histoire comme ça que j'ai fait sur commande. Ils m'ont demandé une histoire érotique, les magasins Playmen en Italie. Et donc, j'ai fait ça. Je n'ai jamais pensé qu'il va éclater comme ça. L'histoire, c'est le mérite de l'Écho de Savant, enfin, qui l'a proposé comme ça.
C'est quoi l'érotisme pour vous, d'ailleurs ? Est-ce que c'est un art de vivre ? Est-ce que c'est une passion ? Est-ce que c'est une forme de poésie ?
Oui, pour moi, c'est l'amour, c'est la poésie aussi. Alors, moi, je pense que l'érotisme, c'est l'élaboration culturelle du sexe. Alors que la pornographie, pour exemple, c'est exposition du sexe. Mais la différence, s'il y a une différence entre la pornographie et l'érotisme, c'est que l'érotisme, c'est l'élaboration culturelle. Comme ça, comme la cuisine, c'est l'élaboration de la nourriture. L'élaboration culturelle. Donc, je trouve que sans intelligence, il n'y a pas d'érotisme. Sans culture, une certaine culture, une certaine sensibilité, une certaine poésie aussi. Il n'y a pas d'érotisme. Et sans amour, je crois qu'il n'y a pas d'érotisme. C'est un jeu entre des partenaires. Je suis hétérosexuel, donc pour moi, c'est un jeu entre la femme et l'homme, de séduction, d'intention. Peut-être qu'il y a plus d'érotisme dans un regard que dans la nudité.
Ça représente quoi pour vous, ça ? De refermer cette page et de tourner cette page définitivement, cette aventure d'Umberto Eco et du nom de la rose ?
Pour moi, c'était une aventure très passionnante et je suis très honoré qu'il m'a proposé ça parce que, vu mon réputation, c'est quand même un hasard. Mais je suis très fier et très honoré qu'il m'a proposé de la faire.
Quel regard, pour terminer, vous portez sur justement justement ce parcours à 80 ans aujourd'hui. Vous continuez à avoir des envies, à faire avancer aussi le regard qu'on peut avoir sur la bande dessinée. Ce 9e art a enfin une place définie, reconnue aujourd'hui.
Oh bon, j'ai eu de la chance, vraiment une grande chance, de pouvoir continuer à le faire et aussi des rencontres que j'ai faites, que sont, j'ai rencontré et même parfois collaboré avec les artistes que plus j'admirais dans la vie, à commencer par Jean Giraud Mébius, qui m'a honoré de son amitié, Hugo Pratt, bien sûr, Fellini, Jodorowsky. Donc j'ai rencontré de grands artistes et ça, c'est la chance. Et après, bon, j'ai travaillé beaucoup. Si je regarde à l'arrière, quand j'étais jeune, je n'aurais jamais imaginé, osé imaginer ma carrière comme ça. Je suis vraiment fortuné.
Et c'est marrant parce que Hugo Pratt et les autres disent aussi qu'ils ont eu l'immense chance de rencontrer Milo Manara. Comme quoi, hein. Merci beaucoup, Milo Manara, d'être passé dans le monde d'Élodie
bon,
sur
merci à vous.
France Info.
C'est une très belle interview.
Merci à vous d'avoir
accepté. Je m'excuse pour mon français.
Il est très bien, votre français.
Oui.
Le nom de la rose, le volume 2, est disponible. Et si vous n'avez pas le volume 1, courez le chercher. Les deux se lisent l'un sans l'autre, mais c'est mieux de les avoir tous les deux. Merci beaucoup.
Oui,
en tout cas.
Merci.